L'amiral vit trois sirènes qui sautèrent hors de la mer. Mais elles n'étaient pas aussi belles qu'on les dépeint, et en aucune façon, elles n'avaient forme humaine de visage. Christophe Colomb, Journal de bord. Mille ans d'histoire. Le 9 janvier 1493, quelque part au large d'Haïti, Christophe Colomb écrivait dans son journal de bord qu'il avait vu trois sirènes. C'étaient en fait des lamantins dont la ressemblance avec les humains est à l'origine d'une très vieille légende. Elle est née il y a près de 3000 ans de l'imagination d'Homère qui, dans l'Odyssée, parlait pour la première fois des sirènes. À quoi ressemblait-elle ? Avait-elle une tête humaine, un corps de poisson, ou des ailes et des griffes d'oiseaux comme on les a représentées plus tard ? L'Odyssée ne le précise pas. Tout ce qu'en dit Homère, c'est que le chant des sirènes est un piège mortel pour tous les marins qui osent s'approcher de leur île. « Vous ne pouvez éviter l'île des sirènes, écrit-il, mais quiconque écoute leur chant est perdu. » Leur séjour est bordé d'un rivage blanchi d'ossements et de débris humains dont les chairs se corrompent.
Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air.
Oui, en effet. Quel silence. Je n'entends même plus le bruit des rames.
Regarde ! Le rocher des sirènes. Les sirènes.
Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons et les fuyons.
Ne restons pas là, ici. Ne perdons pas de temps. Vite, de la cire. Tous les hommes doivent en mettre. On les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. Polité, attache-moi au mât. N'écoute pas mes paroles, quelles qu'elles soient, ni mes ordres. N'obéissez pas.
Mais que veux-tu faire?
Je veux écouter leur chant.
Tu deviens fou.
Attache-moi au mât. Serre fort.
Regardez devant vous.
Vers le sol.
Regardez.
Je veux entendre leur chant.
Mais tu es fou, oui.
Pierre Chaveau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des religions et auteur d'un très beau livre sur les sirènes dont la légende remonte, dites-vous, très loin dans le passé, puisqu'elles apparaissent pour la première fois dans l'Odyssée d'Homère, dont vous parlez dès le début de votre livre. Une Odyssée écrite il y a près de 3000 ans, mais depuis Homère, évidemment, les sirènes ont subi tellement de métamorphoses que l'idée que l'on se fait des sirènes aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la description qu'en donnait Homère à l'époque des Grecs, de l'Antiquité grecque. Les sirènes, c'était des monstres et elles faisaient peur comme tout ce qui vient de la mer.
Absolument, parce que la mer est une immense étendue peuplée d'inconnus, de dangers multiples et variés, et que la mythologie a créé justement des monstres pour conjurer ce sort. Donc on pense bien sûr à Charybde et Scylla, que rencontre aussi Ulysse, qui personnifie à la fois le rocher, et l'écueil et le tourbillon. Et les sirènes font partie de cette panoplie. Alors elles ont effectivement subi une grosse transformation au cours de l'histoire, notamment sur l'empreinte du christianisme, on y reviendra. Mais d'emblée, elles sont pourvues d'ailes. Elles n'ont pas encore leur queue de poisson.
Elles ont une famille aussi. D'où viennent-elles, Pierre Chaveau? Parce que les personnages mythiques de l'Antiquité, ils sont tous apparentés les uns aux autres.
Ah oui, alors là, c'est comme toujours, c'est à la fois très très riche et très compliqué. Mais pour résumer, elles sont les filles de la mère primordiale, qui est un homme d'ailleurs, puisqu'il faut rappeler que la mythologie a été écrite par des hommes et pas par des femmes. Et sont des cousines éloignées des muses. Enfin, tout ça était une grande, grande famille et qui explique aussi le chant qui leur est attribué.
Alors justement, elles chantent, c'est de là d'ailleurs que vient leur nom, Pierre Chaveau.
Absolument, alors comme souvent, sur des noms aussi particuliers, les étymologies ne s'accordent pas forcément, mais enfin bon, il y a un consensus qui se fait autour de deux notions très importantes. La première, c'est la notion de chant, justement, C-H-A-N-T, et la seconde notion, c'est celle de lien, d'attache. Donc c'est tout à fait...
C'est le mot sereine grec, hein, c'est ça qui...
Voilà, exactement, tout à fait. Donc,
et à la dire fois, les deux choses en même temps. Oui. Voilà, le chant et le lien. Oui.
Donc, ce qui explique aussi qu'Ulysse échappe au chant des sirènes parce que Circé, la belle sorcière qui l'a retenu prisonnier pendant longtemps, lui avait prédit la rencontre des sirènes et qu'il a voulu justement aller jusqu'au bout de l'épreuve et y a résisté. En revanche, Orphée, qui fait partie des Argonautes, donc avec Jason, qui sont partis chercher la toison d'or, lui, dont le chant charme jusqu'aux bêtes sauvages et aux rochers, surpasse la qualité du chant des sirènes et de désespoir, elle se jette dans la mer.
Alors, le chant, justement, c'est le seul point commun qu'ont toutes les sirènes depuis Ulysse, depuis Homère, car Homère, en fait, ne les a pas décrites. Hein. Il n'y a pas de description particulière des sirènes, si bien qu'elles ont finalement pris des apparences différentes au gré de l'imagination des hommes et tout au long de leur histoire, jusqu'à la plus célèbre, la petite sirène de ce conte d'Andersen, lu par Nathalie Baye.
Se passe au fond de l'océan et Ulysse même en voile matelot. Méfie-toi mon gars, une sirène qui t'attend dans les profondeurs de l'océan.
C'est une belle chanson, n'est-ce pas? Elle parle du monde merveilleux de la mer, celui où, selon la légende, vivent les tritons et les sirènes, ces êtres fabuleux, moitié humains, moitié poissons. La petite sirène, dont je vais vous conter l'histoire aujourd'hui, était la plus jeune des sept filles du roi Triton, maître de l'océan. Son visage avait la fraîcheur d'un pétale de rose et ses beaux yeux bleus la douceur des eaux profondes de la mer.
Et c'est le chant des sirènes composé par Giovanni Maria Trabacci au XVIIe siècle. Hein, c'est un chant auquel on ne résiste pas. C'était à l'époque où elles étaient déjà décrites avec une queue de poisson, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous le rappelez dans votre livre, Pierre Chavot, dans les bestiaires d'autrefois du Moyen-Âge, il y avait par exemple un certain Philippe de Temps qui disait « La sirène hante la mer, elle a la forme d'une femme jusqu'à la ceinture, et les pieds du faucon et la queue du poisson. » Donc ça pouvait aussi... elle pouvait être représentée comme un oiseau.
Voilà, tout à fait, parce que dans toutes les mythologies et dans la symbolique, notamment en Égypte, mais aussi en Étrurie, enfin dans différentes régions du monde antique, l'aile est associée à la mort, puisque c'est, par exemple, les sandales Hermès aux sandales ailées qui accompagnent les âmes des morts dans les enfers grecs. Et les sirènes s'inscrivent dans cette perspective. Simplement, à partir du IIe siècle, il y a un ouvrage fondamental qui s'appelle le Physiologos, donc ce qui a trait aux physiques, aux sciences naturelles, qui lui va commencer à recenser les sirènes dans le cadre d'une vaste allégorie chrétienne. Et cet ouvrage va être traduit et on va voir petit à petit la sirène perdre une partie de sa forme d'oiseau et acquérir cette queue de poisson. Alors, d'où vient-elle, cette queue de poisson? C'est toute la question et c'est à la fois une enquête passionnante. On s'accorde à dire qu'en fait, il y a un ouvrage qui s'appelle le Livre des Monstres, qui date vraisemblablement du 8e siècle et qui, lui, a commencé à lui coller une queue de poisson. Mais il faut dire aussi que dans certaines traditions, notamment proche-orientales, il y a aussi des créatures à queue de poisson dont la symbolique se rapproche de celle des sirènes.
Oui, alors cet ouvrage, il y a aussi les bestiaires du Moyen-Âge qui traitent aussi bien d'animaux réels que mythologiques. Mm-hmm. Il y a la licorne, le phénix, la gorgone et donc les sirènes. Et dans ces bestiaires, justement, elles sont souvent décrites comme, ou plutôt... comme symbolisant la luxure. Il y a un moine anglais du 7e siècle, Alden de Malmesbury, qui disait ça. Oui. Au fond, c'est une prostituée.
Exactement, tout à fait. Alors, ça s'inscrit dans deux dimensions qui se rejoignent. La première, c'est cette morale chrétienne où la femme n'a pas un rôle très très valorisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, la dimension de la tentation. Donc, il faut résister aux tentations. Et
comme Ulysse avait résisté aux sirènes. D'ailleurs, je crois qu'il y a des représentations d'Ulysse représentées comme un Christ en croix sur le mât de son bateau.
Tout à fait. Alors oui, dans le haut Moyen Âge, c'est dans des enluminures, c'est vraiment tout à fait flagrant. Parce que le christianisme s'est emparé aussi d'une partie de la mythologie païenne. Pour le christianisme, c'est pas autre chose. Il fallait à la fois faire disparaître ces traces païennes, mais en même temps, il les a adaptées à ses propres cultes et ses propres croyances. On pense à des déesses mères qui sont à l'origine de certaines vierges noires, par exemple.
Ce Adem de Malesbury qui disait « Les sirènes sont des filles de la mer qui séduisent les marins avec leur joli corps et leur douce voix. De la tête au nombril, leur corps est celui d'une vierge et ressemblent beaucoup à un être humain, mais ont une queue de poisson couverte d'écailles grâce à laquelle elles se dissimulent dans les flots. »
Absolument. Et puis alors, elles ont deux attributs, le peigne et le miroir, qui sont les attributs de la prostituée. Donc elles lissent leurs longues chevelures avec un regard sensuel et un chant irrésistible auquel personne ne peut justement résister.
Et il y a des gens qui les voient, ce qui est assez extraordinaire. Mm-hmm. On citait tout à l'heure Christophe Colomb, mm-hmm, qui disait qu'il avait vu des sirènes, mm-hmm, au large d'Haïti, qu'il y en avait au large du Golfe de Guinée. Vous citez par exemple de grands navigateurs ou des princes comme Charles Quint, mm-hmm, qui font des descriptions de sirènes. On y croit, on y a cru pendant très longtemps.
Absolument, mais ça s'inscrit aussi dans une conception plus large du monstre marin eux aussi ont été l'objet de multiples témoignages. Les gens sont certains d'avoir vu des îles en forme de baleine. Enfin bon, et les sirènes, pourquoi pas? C'était la terreur de l'inconnu et surtout la rumeur, hein, qui se colporte de bouche en bouche et qui arrive jusqu'au conte, puisqu'il y a énormément de contes qui font référence aux sirènes.
Alors, il n'y a pas de sirènes que dans la mer, hein, vous le rappelez. Leur légende s'est répandue dans toute l'Europe du Nord, hein, comme chez les Celtes, qui ont résisté, vous le rappelez, justement à la christianisation, en se transmettant de génération en génération de vieilles légendes païennes peuplées de personnages aquatiques, comme la Dame du Lac de la légende du roi Arthur.
Nous disparaîtrons si le peuple cesse de croire en nous. Nous cesserons d'exister. La nouvelle religion nous a déjà poussés au bord du précipice. Nous serons bientôt oubliés.
Tout change, ma sœur. C'est triste, mais l'enfer, le ciel et le monde se métamorphosent. C'est le destin. Tu oublies que je suis faite d'eau. Je suis la Dame du Lac.
Entendez-vous, Dame du Lac ? C'est moi, Merlin.
Et c'était l'extrait d'un autre chant des sirènes, extrait de l'opéra King Arthur, Roi Arthur de Purcell, au XVIIe siècle. Décidément, elles inspirent beaucoup de gens, les sirènes. Et là, il s'agit de la sirène, ou plutôt de la Dame du Lac, du Roi Arthur. Est-ce que c'est encore une sirène, Pierre Chavot ?
Alors, c'est, on va dire que c'est une adaptation en eau douce, puisque il y a, dans, en Europe occidentale particulièrement, chez les, dans le monde germano-nordique, chez les Celtes, un certain nombre de créatures à la fois masculines et féminines, donc on change un peu de registre, on élargit le cercle, qui adoptent des formes différentes en fonction des contextes géographiques. Je pense, bon, la Dame du Lac s'inscrit bien sûr dans les légendes arthuriennes. Elle fait partie d'une famille un peu plus large qui s'appelle les Dames Blanches, en fait, qui ont un pouvoir magique. Simplement, on ne les voit pas. Alors, est-ce qu'on peut imaginer leur corps sous l'eau ? C'est, voilà, ça ressortit au mystère le plus profond. Et à côté de ça, vous avez notamment en Écosse, du côté des Orcades, etc., vraiment au nord du monde écossais, ce qu'on appelle les Selkies, qui sont les femmes phoques. Donc si vous leur enlevez leur habit de leur peau de phoque, elles deviennent totalement vulnérables et elles ne peuvent rejoindre la mer qu'avec cet habit de cette peau de phoque.
Puis il y a les ondines aussi.
Oui,
les,
tout à fait.
Les nyx, c'était quoi les nyx ?
Alors les nyx, ce sont c'est du monde germanique, notamment la Lorelei, c'est certainement la plus célèbre. Les Valkyries, donc dans la mythologie germano-nordique, s'inscrivent aussi dans cette perspective. Et la Lorelei, dans ces traditions, il y a toujours au départ une histoire tragique. Donc c'est un amour en général déçu. Et la jeune femme va se suicider et pour se venger, va attirer tous les marins du Rhin, donc qui est un fleuve très important du point de vue du trafic, pour les perdre comme elle a été perdue. On a la même...
C'est la version allemande, au fond, de d'Ulysse, parce que c'est une femme qui provoque le naufrage, justement, des mariniers du Rhin.
Voilà, exactement, oui, tout à fait. Et qui les tente, et les marins qui ont ces grands moments de solitude, autrefois, hein, parce que les voyages étaient très longs, les moyens techniques beaucoup moins développés qu'aujourd'hui. Donc, ils passaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur un bateau. Et donc, tout d'un coup, cette créature devient une espèce de fantasme vivant.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette légende des sirènes, née en Grèce, et peut-être même avant, parce que vous dites qu'au fond, c'est tout simplement parce qu'Homère a été le premier à écrire un roman, en quelque sorte, qu'il est le premier à parler des sirènes, mais qu'on en parlait peut-être avant, qu'on avait imaginé les sirènes avant. Mais ce qu'il y a d'inouï quand je vous lis, c'est que des sirènes, il n'y en a pas seulement en Grèce, en Méditerranée, il n'y en a pas seulement dans le nord de l'Europe, il y en a partout dans le monde.
Absolument, partout dans le monde. Il y a, par exemple, donc quand le vaudou béninois s'est implanté du fait de l'esclavage dans les Antilles, ce qui est devenu maintenant le vaudou haïtien ou pratiqué dans les cultes afro-brésiliens, il y a à l'intérieur des lois, donc des esprits qui animent le vaudou, la sirène en chair et en os, qui est lié à Erzuli, qui est le loi de l'amour, de la création, mais également à celui de la mort. Donc on rejoint vraiment, totalement, et ça s'est passé indépendamment, bien sûr, d'Homère. Ça s'est passé à l'ouest de la...
Ce sont des civilisations qui n'avaient aucun contact entre elles avant, et pourtant qui imaginent le même animal fabuleux.
Absolument. Il y a des concordances comme ça dans l'histoire passionnante des religions. On s'aperçoit qu'il y a des mythes comme celui du déluge qui se sont développés à la fois en Amérique du Nord, en Asie et au Proche-Orient, dans la Bible ou en Mésopotamie en particulier, alors que personne ne se connaissait. C'est assez, assez étonnant. Et les sirènes font partie de ce registre.
Il y en a aussi en Asie, dites-vous, en Inde,
voilà.
À Madagascar, enfin en Afrique d'ailleurs,
oui,
également.
Hein. Tout à fait. Et en Madagascar, pour l'anecdote, quelqu'un de ma famille était en poste là-bas pendant un certain temps et un jour discutait avec un monsieur occupant un poste important aussi et lui a dit très, très, très naturellement, tiens, l'autre jour, je me promenais du côté de je ne sais plus quelle région et j'ai croisé deux sirènes qui m'ont dit bonjour. C'était totalement naturel, c'est complètement ancré dans la tradition.
Alors, ces sirènes, bon, on s'en doute, le mythe a quand même dégringolé quand on s'est rendu compte que c'était très probablement des lamantins ou des dugongs aussi, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait aussi des vaches de mer, je crois.
Oui, voilà. Hein.
Et alors là, brusquement, quand la science s'en mêle, évidemment, le mythe des sirènes, il dégringole.
Bah, oui, tout à fait, parce que bon, on a toujours besoin d'expliquer d'où viennent nos croyances. Et bon, on a rapproché ça de ces deux animaux, qui sont d'ailleurs d'un pacifisme phénoménal, qui donnent une gentillesse, une espèce de gros nounours aquatique. Et aussi parce qu'on s'est aperçu qu'au fil du temps, on avait fabriqué des fausses sirènes aussi au Japon. C'était un art consommé, hein, ouais. À partir de...
Mais quand je reviens, moi, au XVIIIe siècle, par exemple, Cuvier, les naturalistes, les zoologues s'intéressent. Et puis Cuvier, bon, il révèle le poteau rose, si je puis dire. Les lamantins, puisqu'il s'agit d'eux, ont donné naissance à de telles fables parce que l'on a désigné leurs nageoires sous le terme de mains et parce que leur museau est cerné de soie rigide qui, de loin, peuvent donner l'impression d'être des cheveux. Et enfin et surtout parce qu'elles ont des mamelles à l'avant de la poitrine et qu'elles se dressent souvent tenant la partie supérieure de leur corps hors de l'eau. Hein, c'est, évidemment, le mythe en prend un sacré coup.
Ah oui. Mais ça fait rien. C'est quand même encore ancré et ça continue aujourd'hui. Les sirènes ont, dans leur réalisme, bien sûr, on en prend un coup, mais enfin, c'est comme les cauchemars qu'on fait enfant, et quand on continue à 50 ans à regarder sous son lit pour voir s'il n'y a pas un vampire, c'est un peu ça.
Ah oui, mais ça, ce sont des sirènes qui font peur. Or, il se trouve que la sirène moderne, eh bien, si je puis dire, qui apparaît au 19e siècle dans un conte d'Andersen, eh bien, elle ne fait pas du tout peur. Elle a même inspiré un dessin animé de Walt Disney en 1990.
Sirène en vue!
La petite sirène est arrivée sur les écrans parisiens aujourd'hui même. Ariel, la jolie sirène, s'ennuie au fond des mers dans le domaine de son papa, le roi Triton. Aussi désobéissante que gracieuse, elle s'échappe souvent. En sauvant un jeune prince tombé de son bateau, plouf, elle va découvrir l'amour. Ah, les mômes vont l'adorer.
Ses cheveux étaient roux et aussi elle avait une queue bleue.
Est-ce qu'elle était jolie, la sirène?
Ouais, vachement jolie.
Tu tombes amoureux d'elle?
Ouais!
Oh, Ariel! Combien de fois faudra-t-il que je te mette en garde? Imagine que tu as été découverte par ces barbares, par l'un de ces humains. Je n'ai pas envie de voir ma fille accrochée à l'hameçon de ces mangeurs de poissons.
Un bon petit vent, mon prince. Et sûrement une mer qui va monter. Le roi Triton doit être content.
Qui est le roi Triton?
Le maître du peuple des sirènes, mon prince.
Le peuple des sirènes? Ne crois jamais ces balivernes de marins.
Et c'était un extrait de La Petite Sirène de Disney, mais en fait c'est La Petite Sirène de Andersen. C'est lui qui, au fond, a réhabilité les sirènes après des siècles pendant lesquels on les a prises pour des monstres ou pour des prostituées.
Ah, il a largement contribué à améliorer le portrait de la sirène. En même temps, le 19e siècle a été aussi l'époque de la grande collecte des contes. Et on s'aperçoit dans beaucoup de contes que la sirène a acquis au fil du temps une image beaucoup plus valorisante et qu'elle symbolise à la fois bien sûr la tentation, l'inconnu, la crainte de ce qu'on ne sait pas. En même temps, elle incarne, et ce qui vient d'ailleurs dans le conte d'Andersen, l'amour impossible. C'est très étonnant, je résume très schématiquement, ces contes sont bâtis à peu près sur le même schéma. Elle rencontre un humain, ou plutôt un humain la fait prisonnière, et ils fondent avec elle une famille, et finalement, elle retourne à sa mère, et on a des enfants sans maman, et un mari éploré. Voilà. Et quelquefois, elle entraîne quand même son mari dans l'eau, mais pas toujours.
Mais justement, la petite sirène d'Andersen, elle sauve les hommes et les marins. Elle tombe amoureuse d'elle, donc elle ne les noie pas comme le faisait la sirène d'Ulysse. Et en plus, c'est elle qui en souffre finalement parce que l'humain, il se détache d'elle, un petit peu comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus que les enfants pratiquement pour croire aux sirènes.
Ah oui, les petits-enfants et les grands. Parce que j'ai un lecteur, je vais juste citer deux exemples, un lecteur qui m'a envoyé une gentille lettre pour me signaler l'existence d'une sirène très, très ancrée dans les coutumes de Montluçon, qui s'appelle Ikea, que je ne connaissais pas parce qu'on ne peut pas tout connaître.
Pas de pub à l'antenne.
et pour revenir au pendant masculin des sirènes, les sirens, il y a le fameux Colapetché, qui est un personnage qui plonge très très loin, vraisemblablement dans l'Antiquité en Italie, et qui était un plongeur émérite, et qu'on retrouve à la fois cité dans Don Quichotte, ce qui est quand même extraordinaire, et dans 20 milieux sous les mers de Jules Verne.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que bien que, bon, on sache depuis longtemps qu'elles n'existent pas, elles ont toujours fasciné les écrivains. Il y en a un dont on connaît très bien le début d'un poème, Les filles de feu. C'est Nerval. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Et il ajoute, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, le soupir de la sainte et les cris de la fée. D'où vient cette fascination pour les sirènes, même pour ceux qui n'y croient plus?
Ça vient de la perspective qu'ouvrent ces créatures, c'est-à-dire que ça se rapproche à la fois de la femme idéale, de la mère, au sens maternel du terme.
C'était pas le cas dans l'Antiquité, quand même.
Ah non, mais là, aujourd'hui, oui. C'est plus dans cette optique-là. Je vous cite juste un exemple. On m'a raconté l'histoire d'un jeune homme, donc un sirin, hein, qui habite dans une rivière qui serpente les Landes, qui s'appelle Manu. Et ce Manu est à la recherche d'un trésor qu'il doit trouver d'ailleurs de façon imminente, paraît-il, et qui charme tout le monde et qui a été lui-même charmé par une sirène. Et que sa mère, une fée, sortira de cette ornière. Alors, ça représente donc cet amour impossible. Ça représente également la protection, le besoin d'être protégé. Je cite dans le livre, mais bon, c'est une évidence pour beaucoup, ces proues de navires qui étaient ornées de sculptures de sirènes, parce qu'on les craignait, mais en même temps, on avait besoin de leur protection.
C'est pour conjurer le sort.
Voilà. Et dans l'art roman du XIe, XIIe siècle, donc sur les chapiteaux d'église, vous avez des représentations de sirènes, effectivement, avec miroirs, peignes, etc. Mais vous avez aussi des sirènes bénéfiques qui sont chargées avec d'autres personnages de combattre des démons. Donc il y a cette ambivalence en même temps.
Une ambivalence et puis une fascination qui fait d'ailleurs qu'on a vu apparaître jusqu'à ce siècle-ci, au XIXe et au XXe siècle, je dis ce siècle-ci, nous sommes au XXIe, mais on a vu apparaître par exemple pas mal de charlatans. Barnum avait au milieu du XIXe siècle, je crois, avait exposé une sirène.
Absolument, parce que ça faisait partie, vous savez, du phénomène des cabinets de curiosité. Chacun avait ses créatures empaillées, ses monstres. Alors, évidemment, la femme à barbe, l'homme à trois têtes. Enfin bon, il y avait vraiment toute une panoplie. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a énormément de faux qui ont circulé. Bah forcément, puisque les sirènes existent dans notre imaginaire et dans notre volonté de croire au merveilleux, mais pas dans la réalité. Et donc, il avait fallu créer totalement de fond en comble à partir de poils de singe.
Celle de Barnum, en effet, on s'est rendu compte, elle a été horrible. Quand on la voit en photo, elle était absolument abominable. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la tête d'un orang-outang auquel des Japonais avaient jeté une queue de saumon.
Exactement.
c'est dire quand même à quel point elles ont plus fasciné. Vous dites, elles expriment les craintes et les désirs profonds des hommes.
Ça revient à ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est que finalement, on s'aperçoit que la mythologie et l'histoire, d'une manière générale, a été écrite très très longtemps par les hommes uniquement, et que la femme a servi à illustrer des pans de la nature masculine en particulier, ouais. Et pas forcément de la nature humaine. Donc les sirènes sont tout à fait dans cette optique.
Sirène décrite, vous le rappelez, quand même très, très péjorativement pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle devienne la petite sirène d'Andersen, dont on a entendu quelques extraits. Merci Pierre Chavot. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Sirène au cœur du peuple des eaux » publié aux éditions Chasse-Marée et Glénat. À lire également « Le chant de la sirène » de Vic de Donder, qui a été réédité récemment chez Gallimard Découverte, deux livres qui sont magnifiquement illustrés. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Ulysse de Mario Camerini en DVD aux éditions Fabry et Merlin de Steve Barron chez Gaumont Columbia Tristar, ainsi que du dessin animé bien sûr La Petite Sirène de John Musker disponible en DVD aux éditions Walt Disney. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Rémi Quincé et Renan Mahé. Documentation et archives Emmanuel Fournier, Carice Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. « demain, dans 2000 ans d'histoire, un homme qui a incarné la terreur stalinienne, Beria.